De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, toute l'émission d'aujourd'hui sera consacrée au Festival de Cannes, alors avec des films qui ont été présentés en 2018, à la précédente édition donc, et puis le film qui a fait l'ouverture de la 72e édition, dont le jury est présidé cette année par Alejandro González Iñárritu. Et toi, Manu, notamment, tu vas nous parler d'un film qui est présenté à Cannes Écran Junior.
Oui, un film britannique, Just Charlie, de la cinéaste Rebecca Fortune. Et puis, j'évoquerai un film qui est passé l'an dernier à Cannes, dans un certain regard, Meurs, monstre, meurs, d'Alejandro Fadel.
Et puis moi, eh bien, je vous parlerai de Petra, de Jaime Rosales. Ce sera l'occasion d'entendre la scénariste de ce film qui a été présenté l'an passé à la quinzaine des réalisateurs. Et puis donc, on parlera ensemble avec toi Manu de Dead Don't Die de Jim Jarmusch, puisque le film a été présenté dans plus de 600 salles en France en même temps qu'il était présenté à Cannes. Cannes, c'est là où se trouve Marine, qu'on va entendre dans quelques instants en duplex. Chers auditeurs.
This is Cinérama.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Si ça ne vous plaît pas, c'est la même chose.
La 72e édition du Festival de Cannes donc a débuté le 15 mai avec la présentation du jury emmené par Alejandro González Iñárritu et la projection du dernier film de Jim Jarmusch, de Dead Don't Die. Avec nous, Marine, via une liaison Skype en direct de la Croisette. Alors tout s'est bien passé pour cette première soirée à Cannes, Marine.
Oui, alors en effet, hier à 20h avait lieu la cérémonie d'ouverture du 72e Festival de Cannes. Il m'a semblé, alors cette première impression reste peut-être à confirmer, il m'a semblé qu'il y avait déjà beaucoup de monde en ce premier jour sur la Croisette. En même temps, cette année, le festival s'est voulu particulièrement glamour, coloré, et donc peut-être plus attrayant encore que les années précédentes, je ne sais pas. La compétition officielle a des airs de best-of du Festival de Cannes, avec la présence de nombreux réalisateurs emblématiques, les frères Dardenne, Ken Loach, Xavier Dolan, qui est pratiquement né à Cannes, Terrence Malick, Kechiche et même le nouveau Tarantino avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Voilà, qui a peut-être en effet drainé les foules hein, sur la Croisette cette année. Alors par contre, si vous cherchez les femmes, non, ça faudra encore un petit peu attendre, hein, puisque sur 21 réalisateurs en compétition, elles ne sont que 3. Mais Thierry Frémaux semblait tout de même s'en réjouir en disant que le festival cette année était beaucoup plus féminin. Alors l'année dernière, année un peu molle, hein, au demeurant de l'avis de tous, à Cannes, le festival s'était ouvert sur Everybody Knows de Algar Farhadi, qui n'avait vraiment pas fait l'unanimité. Cette année, le film d'ouverture The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, une histoire de zombies décomplexée avec un casting totalement hétéroclite, s'est avéré résolument rock'n'roll et puis ça sert révélateur finalement d'une volonté de ce 72e festival de s'ouvrir à plus de cinéma de genre. Pour rappel, l'année dernière, seuls Climax, Borders et Un couteau dans le cœur s'apparentaient à du cinéma de genre. Cette année, eh bien, on aura le nouveau film d'angoisse de Bong Joon-ho, Parasite, mais également un film policier de Desplechin, un polar chinois et même un film autrichien d'anticipation. Mais revenons à cette première séance cannoise de hier soir. Après 1h30 de queue, j'ai quand même réussi à rentrer dans la salle Debussy, puisque cette année, le festival a décidé, on ne peut que le féliciter pour cela, de diffuser la cérémonie et le film d'ouverture dans plusieurs salles du Palais des Festivals en même temps et dans 600 cinémas en France. Alors pour le coup, eh bien je crois que j'aurais justement été mieux hein, dans n'importe quelle salle de cinéma puisque je me suis retrouvée sur les places, disons, les plus latérales de la salle de Bussy. En d'autres termes, j'étais tellement sur la gauche que je ne voyais qu'un morceau de l'écran. Et le son mal réglé au point d'en être douloureux m'a forcé à mettre des boules quies, ce qui n'est pas commun dans une salle de cinéma. En revanche, forcé de reconnaître hein, que cette cérémonie d'ouverture était, à mon sens, un sans-faute, avec un monologue survolté de Édouard Baer, un hommage à Agnès Varda par la chanteuse Angèle et un montage extrait des films de Alejandro González Iñárritu, le président du jury cannois cette année. Un montage qui était à lui seul, je trouve, un petit chef-d'œuvre hein, qui rendait en tout cas bien hommage à l'œuvre impressionnante du réalisateur mexicain. Par contre, on n'a pas eu droit aux sous-titres des discours en français et en espagnol, ce qui est un peu fâcheux pour un festival international. Mais bon, on ne va pas chipoter. Alors, quant au film de Jim Jarmusch, eh bien, je ne me risquerai pas à vous en parler, car je pense que les conditions dans lesquelles je l'ai découvert ont un peu empiété sur mon ressenti. Par contre, eh bien, j'ai eu la très agréable sensation d'être dans un festival de films fantastiques, et c'est vraiment un compliment. Le public était très réactif, il riait, il ne dormait pas. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on est quand même que le premier soir du festival. Bref, voilà, tout ça était très convivial, très, très agréable à vivre. Et heureusement, parce que je trouve quand même ça un peu problématique d'être dans un festival de films art et essai, c'est-à-dire quand même une institution qui considère les films comme des œuvres d'art, et de laisser les spectateurs, voire même des journalistes, regarder des films sur un écran tronqué. Parce que je pense qu'on n'est pas censé montrer un bout d'œuvre d'art à quelqu'un qui est censé en faire la critique. Et puis alors pour finir, eh bien, ce festival de Cannes n'a pas encore commencé, hein, que déjà on a une première polémique. Une association féministe, Women in Hollywood, a lancé une pétition afin d'empêcher que Alain Delon ne reçoive sa Palme d'Or. Raison invoquée, les nombreuses sorties sexistes et racistes du comédien. Ou alors, pas sûr, hein, que cette pétition ait une quelconque influence sur le déroulement du festival. Parce que bon, si en France, le fait d'être ouvertement misogyne et raciste était une entrave à une carrière, ça saurait. Donc, je pense que ça ne va pas empêcher Alain Delon de recevoir sa Palme d'honneur. Et puis, eh bien, quant à moi, je vais aujourd'hui vivre ma première véritable journée de ce 72e festival de Cannes. Une journée qui commence sous la pluie. Hein. Mais bon, comme on dit, Cannes pluvieux, Cannes heureux. Un peu comme chaque année.
Ce n'est pas la pluie qui a dominé dans le film de Jim Jarmusch, c'est plutôt eh bien, les zombies qui n'ont pas arrêté de pleuvoir.
This is Cinérama.
Le festival de Cannes.
Le festival de Cannes.
Le festival de Cannes.
C'est irrésistible, en effet.
Qu'est-ce qui a fait ça? Une bête sauvage?
C'est épouvantable. Probablement la pire chose que j'ai vue.
C'était quoi, plusieurs bêtes sauvages?
Alors, tu penses à quoi?
Je pense à des zombies.
Quoi?
Bah, tu sais bien, t'es mort vivant.
C'est nonchalamment, et ce ne sera pas la première fois dans le cinéma de Jim Jarmusch, que l'on entre dans cette histoire qui revisite l'univers des zombies. C'est loin d'être une surprise, tant pour le spectateur, avant d'entrer en salle, puisqu'on a largement annoncé que Jim Jarmusch ouvrait le 72e festival de Cannes. Et ce n'est pas non plus une surprise pour le spectateur devant le film, tant le réalisateur américain balise son récit, au point même de faire une mise en abîme avec des personnages qui savent qu'ils sont dans un film. Et les plus avertis d'entre eux, hein, des personnages, ont des mots qui sont autant d'avertissements, d'alertes, pour le spectateur. Alors cela donne des situations évidemment absurdes. Mais l'histoire l'est aussi, donc pourquoi se priver ? À Centerville, aux États-Unis, une petite ville bien tranquille, eh bien les morts se réveillent parce que la politique énergétique du gouvernement américain, parti forer en Arctique, a déréglé la rotation de la Terre. Le jour et la nuit sont donc déréglés, la Lune envoie ses mauvaises vibrations et hop, c'est de pire en pire. Alors comme l'annonce très vite le personnage d'Adam River, qui joue le collègue flic de Bill Murray, eh bien ça va mal finir. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas prendre le temps d'en rire.
Ouais, il y a un truc bizarre qui se passe.
Ouais. Bizarre.
Ouais, tout ça va mal finir, Cliff.
Alors vous voyez, hein, c'est nonchalant. Comme pour le film de Romero, La nuit des morts vivants, qui s'inscrivait dans le contexte politique et racial des années 60, ici, Jarmusch prend d'autres repères et s'attache davantage à la lutte écologique et à la critique du consumérisme. Alors, comme un personnage le dit, il faut s'attacher aux détails. Et ici, eh bien, les choix politiques se voient ouvertement sur les casquettes avec un fermier, insupportable Steve Buscemi, qui en porte une avec un slogan suprémationniste. Ça se joue sur les voitures que chacun possède, les jeunes qui se plaisent dans le vintage rutilant, quand d'autres optent pour la voiture hybride ou font le choix de la décroissance avec un tout petit modèle de place, une Smart, pour ne pas la citer. Alors tout cela est amusant, quoique surligné, mais Jarmusch ne cherche peut-être pas autre chose que faire plaisir et se faire plaisir, parce qu'au final, quels que soient les choix de chacun, eh bien, tout le monde y passe. Et il est amusant de voir que les morts, dès qu'ils reviennent à la vie, eh bien, se complaisent à nouveau dans les activités qu'ils ont quittées, jouer au football, au tennis, manger des sucreries, retourner coûte que coûte au magasin de bricolage ou obnubiler par le café, le Xanax ou le Wi-Fi. En ce sens, Jarmusch a fait de ces zombies non pas seulement des créatures cannibales, mais aussi des êtres politiques qui sont parfaitement idiots par ailleurs. Ce qui ne fait pas un vrai sujet. Alors, Dedette Dondaï est une farce décalée, entêtante, avec des clins d'œil au cinéma, à la culture pop, à la société américaine sous Trump, et qui embarque des acteurs fidèles à Jarmusch.
On devrait pas se dire les uns aux autres que tout va s'arranger ? Que tout ça va s'effacer comme un cauchemar ? Ronnie ?
Le truc, Mindy, c'est que je suis pas sûr de pouvoir l'affirmer.
Voilà, ça, c'est une discussion de flic. Alors Manu, tu l'as vu aussi, hein, ce film.
Bah, oui. Donc, Alors moi, j'étais pas, on n'est pas très surpris hein, quand on connaît l'univers un peu de Jarmusch. Hein, c'est un petit peu laborieux et il a l'air de dire qu'il s'en moque justement cette mise en abyme, c'est de dire qu'il se moque en fait totalement du récit quoi. D'ailleurs, l'une des seules surprises, c'est quasiment un peu n'importe quoi.
Oui,
avec,
oui. On peut pas le dire.
Un peu n'importe quoi. Oui. Et je dirais juste qu'au-delà en fait, de cette dimension, de cette référence quand même principale, c'est George Romero. Hein. D'ailleurs, y compris hein, tout le côté consumériste, hein, puisque c'est vraiment là-dessus, Zombie, les morts-vivants, revenaient dans un centre commercial. Donc il reprend quand même beaucoup d'éléments qu'on voyait chez Romero. Moi, ce que je vois, c'est plutôt un film un peu gueule de bois, comme si Jarmusch n'y croyait plus, en fait. Je vois un film où il n'y croit plus, il n'a plus tellement envie de filmer, et il se dit qu'on vit dans un monde de merde, alors il a... Ça pourrait être presque un chant du cygne, son film.
Alors ça, on pourrait dire que ça se termine comme ça. Hein. C'est quasiment la dernière réplique.
Oui, c'est la dernière réplique, mais c'est vraiment... Je ne sais pas si je continuerai à faire des films actuellement. Ce monde n'est plus pour moi. Enfin, moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça, jusque dans son rythme nonchalant, même poussif. Hein. Je suis pas sûr que les jeunes spectateurs y trouvent leur compte, d'ailleurs. Hein.
Pas évident. En tout cas, il y avait des rires. Hein. Y avait une, bon,
le film est assez drôle, hein, sinon. Hein. Donc...
Ça se tente, moi je dirais que ça se tente. Enfin, c'est pas un mauvais, c'est pas un mauvais moment qu'on passe finalement.
Non, c'est plutôt.
Et
c'est
même
plutôt
si on aime les zombies, ce qui n'est pas mon cas. Toi, t'es plutôt.
Je suis plutôt fan de films de zombies. Hein. C'est pas forcément d'ailleurs la représentation des zombies, elle est pas fantastique. Je trouve que notamment les effets spéciaux un peu numériques avec la poussière qui vole, c'est un petit peu décevant pour une production comme ça qui serait un peu cheap. Il aurait dû aller plus loin là-dedans, du moins dans l'horreur graphique, je pense.
Mais c'est quand même amusant, hein, en tout cas, de voir Iggy Pop.
Ah oui, Iggy Pop, qui
en
sort
zombie,
d'une tombe.
Accro du café.
Et il sort d'une tombe où sur sa tombe est inscrit Samuel Fuller, qui est quand même le cinéaste préféré de Jim Jarmusch.
Voilà, c'était le film de Jim Jarmusch, donc qui faisait l'ouverture de la 72e édition du Festival de Cannes, et tout le monde prédit à peu près que ce ne sera pas la Palme d'Or. De Palme d'Or, il va être question dans le blind test spécial de cette émission, puisqu'il va falloir eh bien, découvrir 5 Palmes d'Or à travers l'histoire du Festival de Cannes. 5 extraits, et donc eh bien, le premier va être facile.
Tu sens ça? Est-ce que tu sens? Quoi? Le napalm, fils! Y'a rien qui sente bon comme ce truc-là! J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Une fois, on avait lâché une chiée de bombe, arrosée pendant 12 heures de rang, et quand on est allé voir, on n'a pas trouvé un macap de Viette, il n'y en avait plus un seul. Ça emboumait toute cette essence, ça sentait bon. La colline sentait. Ça fleurait. La victoire, quoi.
Moi, j'avais dit que c'était facile, Manu.
Apocalypse Now, Palme d'Or, 79.
Oui, Francis Ford Coppola, évidemment. Deuxième extrait.
Si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais d'autre? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Avoir un copain pendant des mois. Oh, et puis c'est la même chose, à force d'être copain, on devient copain. Je m'envoie un télégramme, je vous aime. J'ai aucune psychologie féminine.
Alors, c'était la voix de Trintignant.
Et c'est un homme et une femme, Lelouch, et c'est 66.
Oui, bravo. Gilles Lelouch qui sera présent lors de cette 72e édition pour présenter la suite hein, de ce film. Ce sera
Claude Lelouch.
J'ai dit quoi?
Gilles Lelouch.
Gilles Lelouch, oui. Pas du tout. Non, il y était là l'an dernier, Gilles Lelouch, avec le grand bain. Mais là, cette fois-ci, donc, ce sera donc, Claude Lelouch donc, qui présentera la suite d'un homme et une femme hors compétition.
De quoi est-ce que tu as peur?
De toi. J'ai peur de ton égoïsme, de tes idées étroites étouffantes, de ta pauvreté d'idéal. Mais tu ne vois donc pas que ce que tu me proposes est une véritable vie de fossile? Tu ne sais parler que de recettes de cuisine ou de régime pour le foie? Eh bien, moi, j'en ai par-dessus la tête de vivre comme ça, tu comprends? Je suis pas assez vieux! Je suis pas un fossile, moi! Oui, j'en ai assez de supporter ton amour agressif, visqueux, maternel, j'en ai plein le dos! Et j'ai pas envie de me laisser faire, tu entends? Mais d'ailleurs, c'est pas de l'amour ce que tu me proposes, c'est de l'abrutissement! Jamais je n'accepterai de continuer de vivre comme ça, tu entends? Jamais! Il vaut mieux se séparer tout de suite!
Alors, ah, tu sèches.
Je pense que c'est un film que j'ai vu en VO de toute façon.
Oui, oui. Acteur italien.
Je dirais acteur italien Mastroianni, donc ça doit être la Dolce Vita 1960. Mais
c'est ça.
C'est C'est pas facile du tout, là, enfin, quand on connaît le film en version originale, oui. C'est très curieux d'entendre
la
française.
Mais en même temps, là, il la chasse, il dit que ce sera plus possible, mais en fait, la séquence d'après, il la reprend en voiture. Et l'histoire continue, description d'une société oisive et débauchée, un film qui avait fait quand même scandale à sa sortie. Quatrième extrait.
Je sais, vous faites pour le mieux. Je dois croire, ça, c'est notre seul espoir. Mais vous, vous connaissez tous les rouages de ce pays, n'est-ce pas? Vous avez tous les contacts. Et moi, je ne suis qu'un homme d'affaires de New York, plus très jeune. Je ne parle pas un mot d'espagnol. Et je suis là, moi. Mon fils peut avoir été tué. Il a pu être torturé. Peut-être il a été battu si fort qu'il le garde jusqu'à ce qu'il soit en état d'être relâché. Je ne sais pas, moi. Et ça m'est égal. Je jure que ça m'est égal. Parce que ce qui est fait, est fait. Je veux que vous contactiez ces gens et que vous leur disiez que je reprendrai Charles, quel que soit son état. Je ne ferai pas de scandale. Je ne dirai rien aux journaux, à qui que ce soit. Vous m'indiquez la conduite à suivre et je m'y conforme. Je pardonne à tout le monde, n'importe quoi, n'importe qui. Je ne veux rien d'autre que mon enfant.
Voilà, j'ai laissé ce dialogue jusqu'à sa fin.
Et donc c'est Missing, et on entendait là la voix française du coup de Jack Lemmon, Palme d'Or 82, ex aequo avec Yol.
Oui, et c'est le prix d'interprétation masculine pour Jack Lemmon. Allez, dernier extrait de ce blind test.
Je t'ai jamais dit ce que je faisais avant de tomber sur toi.
Moi je suis sûre que tu étais le mec le plus cool.
Pas tout à fait, non. Une des raisons de toutes les emmerdes où on se trouve, c'est justement ce que je faisais. J'ai déjà essayé de t'en parler.
Là, chérie, tu me fais peur.
Mais il y a toujours deux côtés. Il y a le bon et puis il y a l'autre.
Bon, c'était facile aussi.
Là, c'est la musique de Chris Isaak. On reconnaît tout de suite. Parce que c'est pareil, les voix françaises, j'aurais pas reconnu. Si
Nicolas Cage, quand même. Bon.
Bah, je sais pas si c'est sa voix habituelle.
Si. Ah oui, si. Très caractéristique.
Parce que je connais le...
On me dit non.
Non, parce que moi je connais le doubleur officiel, c'était le beau-frère de Patrick Devers et Dominique, alors je ne sais plus son nom de famille, mais bon, en tout cas, c'est pas sa voix officielle.
Ouais. Donc ça t'a un peu trompé. Heureusement qu'il y avait Chris Isaak.
Oui, là, automatiquement, comme ça revient souvent dans le film.
Bon, j'ai pris cette séquence parce qu'elle est très longue dans le film et c'est un moment où il roule sur une route avec la ligne discontinue, des images qui reviennent dans Lost Highway notamment. Voilà, c'est des images un peu fétiches de David Lynch. Et ça, c'était la Palme d'Or 90. Ainsi s'achève ce blind test spécial Cannes. On reviendra avec Cannes dans l'émission de la semaine prochaine. Mais on y reste aussi un peu avec un film qui avait été présenté l'an dernier dans la section Un certain regard. C'est Meurs, monstre, meurs.
This is Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Alors l'Amérique latine n'est pas simplement ce territoire propice à un cinéma social et surtout politique lié à un passé douloureux où se sont succédés des dictatures dans nombre de pays. Le travail d'exorcisation d'une histoire complexe s'avère une nécessité dans des contrées qui ne sont pas toujours à l'abri de nouveaux partis totalitaires au pouvoir. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe d'ailleurs au Brésil. Alors en marge de cette cinématographie nécessaire, de mieux en mieux distribuée d'ailleurs, il existe une appétence pour le cinéma de genre, le fantastique en tête, issu d'une part de la littérature sud-américaine, le fameux réalisme magique, mais aussi de quelques pionniers des 70s qu'il nous reste à découvrir, comme le fou furieux brésilien José Mojica Marin, auteur d'une trentaine de films d'horreur brésiliens des années 60 à nos jours. Alors récemment, le dérangeant, il y a eu La Région Sauvage d'Amat Escalante et le très surprenant Les Bonnes Manières de Marco Rutra et Juliana Rojas nous offraient des relectures passionnantes des mythes fantastiques confrontés au réel, le surnaturel agissant comme une allégorie d'une vision sociale souvent critique. Alors tout ça pour en venir à Meurs, monstre, meurs, premier film qui nous vient, c'est un premier long métrage qui nous provient d'Argentine et semble épouser les mêmes enjeux que les films cités ci-dessus. Alors les premières images sont impressionnantes, au milieu de moutons affolés, une femme avance, la gorge tranchée, la tête bascule en arrière et cette tête se détache lentement. Alors le sang coule à flot, l'action là se déroule dans un coin reculé de la cordillère des Andes. Le corps décapité donc, de cette femme est retrouvé, la tête est en partie recouverte d'une substance verte et jaune gluante. L'officier de police rural, Cruz, mène l'enquête, désorienté par les indices. David, le mari de Francisca, amante de Cruz, devient rapidement vite le principal suspect, étant sur les lieux la nuit du meurtre. Alors, envoyé dans un hôpital psychiatrique, il évoque l'apparition violente d'un monstre. Dès lors, Cruz s'entête sur une mystérieuse théorie, alors impliquant des notions géométriques, les déplacements d'une bande de motards et une voix intérieure obsédante qui répète comme un mantra, on va dire, « meurs, monstre, meurs ».
Cuéntame cómo la mató. Cuénteme, ¿dónde está la cabeza?
Alors, baignant dans un climat, on va dire, suffocant, hein, très pesant, un imbé d'images splendides, hein, mettant en valeur les décors naturels de la Cordillère des Andes, Meurt, monstre, meurt, alors intrigue et fascine, durant une première partie vraiment hypnotique, qui rappelle étrangement, hein, si l'on extrait le contact géographique, un film coréen, le génial Memories of Murder. Mais le problème, c'est que l'extrême lenteur de l'intrigue finit par agacer, laissant point d'une propension au réalisateur à se délecter de ses plans ultra chiadés, de ses dialogues ampoulés, sursignifiants, à force de considérations philosophiques un peu fumeuses. Meurt, monstre, meurt, alors échoue par excès d'ambition, mais aussi par cette manière de prendre le genre un peu de haut et de nous rappeler avec emphase que nous ne regardons pas un film d'horreur, mais une œuvre beaucoup plus profonde, sorte de bête de foire pour festival. Alors, l'impressionnante direction artistique, hein, parce que c'est nickel niveau cadrage, lumière, décor, ne parvient pas à sauver le film de sa prétention, de son manque d'humilité. Enfin, c'est un cinéma qu'il ne comprend pas vraiment. Alors, le constat est sans appel, hein, lorsque nous découvrons Médusé, le monstre, totalement ridicule, alors qui, sans spoiler, ressemble, alors on va dire, à une sorte de Casimir doté d'un vagin géant et d'une très très longue bite. Alors, créature sexuée qui doit avoir pour le réalisateur une très haute signification, alors qu'il nous échappe. Alors, tout ça, c'est dommage parce que le réalisateur, Alejandro Fadel, a du talent, mais là, un excès d'ambition, il a complètement raté son film.
C'est dommage. Ce sera la conclusion de cette chronique. Un film un peu moins raté, heureusement. La tragédie au bout de la recherche de l'identité, c'est Petra, et c'est l'interview de cette émission.
This is Cinerama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
Voilà un film qui est loin de faire l'unanimité, Petra de Jaime Rosales, long métrage qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, mais en 2018, et qui se retrouve seulement dans les salles depuis le 8 mai. Une œuvre intrigante, tragique, froide, délicieusement cruelle. Petra, c'est le prénom d'une jeune artiste qui effectue une résidence auprès de Rome Navarro, un plasticien de renommée internationale. Mais ce qu'elle vient faire auprès de cet homme, qu'elle découvrira cruel, manipulateur, obscène, ce n'est pas tant perfectionner son art que parfaire son identité. Dès qu'elle arrive dans cette propriété baignée de soleil avec la caméra qui la suit, on sent bien qu'une aura malveillante pèse sur elle. Ce vieil artiste, on aura tout le temps de voir combien il est malfaisant, va jusqu'à développer une forme de misanthropie qui sert un penchant pervers. Car s'il considère que l'art doit rechercher la vérité, ce qui occupe les hommes reste le mensonge. Manipulateur plus que lâche, celui-ci va tout faire pour créer une tragédie, alors à l'ancienne, au sens grec du terme. L'audace cinématographique de Jaime Rosales est d'orchestrer un récit non pas avec des flashbacks, mais avec des séquences prises à différents moments du temps et qui ne se suivent jamais, fournissant autant de chapitres bien désarticulés. Le temps donc l'est désarticulé pour en venir à l'essentiel, à la vie, à la perception des personnages. Plus on avance dans le film, plus la tension du thriller psychologique va monter. La vérité qui va s'afficher par petites doses va stimuler le récit avec des effets radicaux et dévastateurs. On va écouter Clara Roquet, la co-scénariste de Petra, qui nous parle de l'articulation de ce récit.
¿Qué tal? Yo soy Petra.
Pour nous, l'idée de décomposer l'histoire était claire dès le début. En fait, on a changé l'ordre du récit plusieurs fois à l'écriture. Nous avons mis en place cela pour que le spectateur soit attentif, qu'il se pose des questions. Alors, sur non pas ce qui va se passer, mais comment ça va se passer. Donc c'était nécessaire de laisser des trous pour que le spectateur se pose des questions.
Je crois que avec Yama, on ne peut apprendre
rien. Nous avons seulement changé...
Au niveau de l'écriture, on a joué avec l'ordre des événements pour voir ce que ça pourrait générer. On voulait à la fois qu'il y ait des questions, des sentiments, mais aussi des éléments de surprise.
C'est complexe. C'est quelqu'un qui peut être encantador, comme peut être très pervers, très cruel.
Cruel.
Oui.
You have this beautiful nature.
Il y a une nature qui est omniprésente, merveilleuse. Le choix de Jaime Rosales est très pertinent, car il verrouille une ambiance. On a l'impression que les personnages sont enfermés dans cet espace.
T'es menti. Comme tous, mentimos.
These were done
L'art, la sculpture et la peinture, notamment, ont une importance dans le film. La peinture de Petra raconte quelque chose sur le personnage. Ça reflète la quête de Petra de trouver l'identité de son père qui est cachée. Il y a un moment où elle efface tout. Alors, c'est à chacun d'interpréter, mais pour moi, ça exprime vraiment sa frustration. Cela montre combien c'est important pour elle, combien elle est déterminée à connaître son identité, savoir d'où elle vient. Elle préfère savoir, même avec toute la souffrance que cela comporte, plutôt que de ne pas savoir.
C'était Clara Roquet, la scénariste du film de Jaime Rosales, Petra, dans les salles depuis le 8 mai. Un film qui est à Cannes, d'ailleurs, pour Cannes Écran Junior 2019, et qui est dans les salles depuis le 15 mai, c'est Just Charlie.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Alors, le deuxième long-métrage de Rebecca Fortune ne fera pas d'ombre à l'excellent Girl, sensiblement autour du même sujet. Alors, sans être désagréable, Just Charlie déroule son petit programme en évitant soigneusement de déranger, de semer le trouble, en s'emparant d'un sujet de société, on peut dire, un peu à la mode. La quête d'identité ronge l'adolescence depuis toujours, inquiétude majeure souvent liée à la puberté. Alors, à travers des histoires métaphoriques, notamment dans le fantastique, les cinéastes n'ont cessé d'aborder ce thème inépuisable. Finalement, un film comme Spider-Man ne raconte pas autre chose, la découverte et l'acceptation de soi. Alors, cette approche détournée n'est pas révolue, mais laisse place aujourd'hui à une vision frontale et directe, en phase avec certains bouleversements sociaux. Les tabous sur l'identité sexuelle commencent à sauter. D'ailleurs, on ne parle plus de troubles d'identité sexuelle, mais de dysphorie de genre. C'est-à-dire que Charlie, le jeune héros du film, dans sa lutte existentielle, se retrouve confronté à un paradoxe. Il est une femme dans un corps d'homme. Il n'a aucun doute là-dessus, donc parler de troubles est une erreur. Il y a une dissociation corps-esprit. La complexité d'une telle situation vient essentiellement de l'extérieur, à commencer par l'environnement familial. Car le pauvre Charlie vit dans une petite bourgade anglaise où tout le monde se connaît. C'est un adolescent tout ce qu'il y a de plus classique. Il est destiné à un bel avenir dans le football et son père projette à travers lui ce qu'il a lui-même raté. Or, l'acceptation de sa véritable identité va bousculer l'équilibre familial et celui de ses amis. Alors, Charlie ne creuse pas le personnage justement de Charlie, il reste à la surface, n'évoquant sa différence que lorsqu'il porte des vêtements féminins. Le film s'intéresse moins à ce personnage qu'à l'entourage. Le regard des autres, essentiel dans un tel chamboulement de valeurs, devient alors le sujet central de cette quête d'inclusion au sein d'un microcosme où les réflexes réactionnaires sont encore très forts. Alors le père aimant au demeurant refuse de voir la réalité en face et rejette au départ le désir de son fils. Idem pour le meilleur ami de Charlie. Le problème du film tient moins à son discours honnête et irréprochable qu'à la forme même et à certains choix scénaristiques quand même contestables. La première séquence, d'ailleurs filmée au ralenti, qui est entourée comme ça d'une lumière très esthétisante, montre Charlie jouant au foot sous le regard admiratif du père. La joliesse du moment agace et ne sera jamais contrebalancée par la suite. La cinéaste a beau tourner son film en scope, il ne dépareille jamais d'un téléfilm de luxe soigné, mais dénué de la moindre audace visuelle. Finalement, elle se place assez sous l'influence, on dira, d'un Ken Loach en petite forme, se drapant derrière un humanisme un peu mollasson. Tous les personnages, en dépit de leurs failles, à l'exception du final expéditif et artificiel, alors stigmatisant là l'ignorance et la violence de quelques jeunes crétins, sont sauvés, excusés même par un scénario empathique qui manque quand même de cruauté. Entre la mère aimante, qui est prête à tout pour sacrifier, ça c'est quand même un gros cliché de ce type de film, la sœur pleine de compréhension et l'entraîneur, lucide, la réalisatrice opte pour un ton résolument optimiste, plein de bons sentiments, jusqu'à l'écœurant épilogue qui tente de concilier, on va dire, conservatisme, puisqu'il s'agit d'un mariage à l'église de sa sœur, et progressisme. En découle alors, on va dire, un film gentillet et superficiel, où tout le monde finit par se prendre la main. Alors, un tel sujet méritait quand même un traitement plus âpre, surtout que Rebecca Fortune rate l'essentiel, filmé, je dirais, comme Girl, de l'intérieur, la transformation physique d'un ado en une femme épanouie. Et je trouve que sur ce plan-là, le film est quand même assez raté, mais... Voilà, pour le défendre, je dirais que les acteurs sont excellents, mais ça, c'est comme dans tout bon film anglais. Et surtout, il peut intéresser un public plus jeune.
Et justement, il concourra à Cannes Écran Junior. Donc, il sera présent au festival. Il sera montré avec une dizaine de films à peu près à un jury d'adolescents.
Je pense que le film est quand même destiné à ce public-là, je pense.
Bon, bah heureusement qu'il y avait le Jarmusch, hein, parce que t'es tombé sur deux films qui t'ont pas vraiment intéressé.
Vous avez fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
Bon, toi, Manu, t'es puni, tu n'iras pas à Cannes, mais en revanche, moi, j'y serai. Pour la prochaine émission, on vous rapportera des reportages et on aura vu, évidemment, des films. À la semaine prochaine.